Et puis, mais Rashi ajoute, d'avoir à faire, deuxième explication, j'ai séjourné chez Laban, et Laban, on sait qui c'est un rachat. Laban, c'est l'homme blanc, Laban, ça veut dire blanc, c'est pas si blanc que ça. J'ai séjourné chez le rachat, et malgré ça, je n'ai pas appris, je n'ai pas été influencé par lui, et Rashi ajoute en citant un midrash, Tariyad Mitzvot Shamarti. Et j'ai préservé les 613 commandements. Tariyad, c'est 613. Tariyad, c'est 613. Et c'est les mêmes lettres que garde. Surtout, ne me demandez pas si c'est sérieux. Garde, j'ai séjourné. Alors, Rashi nous dit, c'est une allusion aux 613 commandements. Bien que j'ai séjourné chez un rachat, j'ai préservé les 613 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire ce que nous avons vécu. Imaginez à quelle pression nous avons été soumis en Occident, chez la Vagne, chez les Blancs. Et ils nous ont fait même passer des nuits blanches, comme disait Jacob. Jacob dit, même la nuit, je n'ai pas dormi. Et malgré ça, nous sommes revenus avec un Shulchan Aruch sous le bras. Imaginez que c'est énorme, qu'on ait pu ramener le Shulchan Aruch 2000 ans après un voyage dans une telle civilisation. Et ce que Rashi, avec beaucoup d'humour, il était en Champagne, fabricant de vin de Champagne, il y a 1000 ans. Et puis il nous donne une petite note comme ça, j'ai séjourné chez Laban, c'est le sire de Coucy ou c'est le sire de Chinon, et malgré ça, j'ai préservé les 613. Imaginez, il fallait le faire, dans la France du Moyen-Âge, garder les 613 commandements chez leurs ancêtres, les Gaulois, qui étaient occupés à construire les cathédrales, leur dame de Lorette et leur dame de... Bon. Hein? Comment? Il n'a pas dit, j'ai pratiqué. Il a dit, j'ai préservé. Ça marche. Faites bien attention à chaque terme. J'ai préservé. Parce que vous croyez que les Juifs ont pratiqué la Torah dans la galoute. Ils l'ont préservé, ils l'ont ramené. Ils pour comprendre. C'est la même chose. Pourquoi? Bah, comment Rashi le savait? Vous savez comment il le savait? Oui. Je comprends la question. Il y a une... comment dire? Ici, une explication du Midrash. Torah, ça fait combien? Six ans. Oui, lesquels? Les deux premiers, Anochi et Elohi Elecha. Vous savez qu'il y a un drash qui... Non, c'est le contexte même, il y a un drash qui se grandait. Au Sinaï, Dieu lui-même a dit les deux premiers commandements et le peuple a supporté. Et après, il n'a plus supporté, il a dit à Moïse, dis-toi le reste. Alors, Torah, c'est 613 commandements. Tous ces deux premiers, il y a un Dieu unique. Un, et il n'y en a pas d'autre. Deux, les deux premiers commandements, ça fait 613. Ça veut dire, si Yaakov comprend ce qu'est la Torah, il sait qu'il devait y avoir 613 commandements. Il y a d'autres manières de le montrer, mais de toute façon, dans le principe que nous avons vu tout à l'heure, que c'est très figuratif de notre histoire, c'est surtout le contenu que je voulais mettre en évidence. Ne croyez pas que Israël dans la galoute a vraiment pratiqué les 613 commandements. Il en a pratiqué quelques-uns, mais pas les 613 de l'ensemble de la vie. Il les a conservés et ramenés en Israël. Mais je veux dire, ce Rashi éclaire la portée de notre propre histoire. On ne se rend pas compte à quel point c'est un effort gigantesque de vivre 2000 ans de clandestinité comme nous l'avons vécu chez les Goïms et de nous en sortir avec la Torah et de la ramener. Bon, alors là, pourquoi ces deux Rashi? On comprend très bien, c'est que Rashi aussi pousse la logique du texte. Il y a dans chacune de ces paroles deux niveaux. Une qui concerne, un niveau qui concerne Ésaü sur terre, il a dit, tu sais, je n'ai pas été autre chose que mes textes. C'est un niveau qui concerne en haut. Et Jacob vient et dit, je peux être appelé Israël, parce que voilà ce que j'ai réussi, d'être le juge de l'exil et de ramener quand même le Shulchan Aruch. Bon, vous avez compris. C'est dans... Top. On va quand même s'arrêter là parce qu'il est un peu tard.
Lorsque
ce
code avec le combat
avec l'Anse, il savait
pertinemment d'avance
qu'il y a un joueur de l'Israël. Oui. Je savais puisqu'il n'avait pas de ça. Oui, alors écoutez, la question est la suivante. Lorsque Jacob lutte contre l'Anse, il savait à l'avance qu'il serait victorieux et qu'il serait Israël, puisqu'il sait qu'il est Jacob, puisqu'il doit lutter contre l'Anse, il n'a pas lui-même de faire dans l'Israël. Ça, c'est nous qui le savons. Et c'est ça le mérite des pères. Et j'ai un peu décrit cela tout au début en disant qu'il fallait à chaque étape inventer ce qu'il fallait être par la suite. Ce qu'il fallait être dans la suite. Et je vous donne un exemple, le sacrifice d'Isaac. Nous pourrions dire facilement, Abraham savait que finalement Dieu allait l'arrêter. Ben non, il ne savait pas. Cela se passe. C'est pourquoi il ne comprend pas. C'est pourquoi il est en pleine perplexité. Il y a même un midrash qui dit que le Satan se parle à Abraham et lui dit, Abraham, est-ce que vraiment tu peux croire que c'est Dieu qui t'a parlé en te demandant de sacrifier ton fils? En réalité, sache que c'est le Satan qui t'a parlé. Et le Satan se fait prendre pour Dieu et dit que Dieu, c'était le Satan. Il n'y a que le Satan qui peut te demander de sacrifier ton fils, parce que Dieu lui t'a promis une descendance. Et Abraham lui a répondu, tais-toi, je fais ce que Dieu me demande. Et la réponse est très forte, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'Abraham est vraiment troublé. Et Dieu lui a dit, tu auras une descendance. Et voilà qu'il a un enfant. Il dit, maintenant, c'est un enfant, sacrifie-le. Et on pourrait répondre de la manière suivante, que ce n'est pas celui-là, peut-être que ce sera un autre. Mais le texte a commencé par dire, prends ton fils, ton unique, ton aimé, Isaac.
Il a
eu plusieurs autres. Qui, Abraham? Oui, non, mais c'est autre chose. Ce n'est pas les enfants de Sarah. Mais en fait, ça veut dire que c'est une épreuve. Si Abraham est capable de rendre son fils, alors ça lui appartient. Et c'est pour ça que dès qu'il fait le geste d'accepter, Dieu lui dit surtout, mais c'est rien. Maintenant, je sais que c'est à toi. Quel est le problème là? C'est que nous sommes dans cette seconde épreuve, celle d'Isaac. L'épreuve que le don de l'être que l'on a reçu, ils font payer le prix. Il n'y a pas d'autre prix à payer que l'être lui-même. Quel substitut on peut donner que l'être que nous avons reçu? Quel que soit nos mérites, ça ne contrebalance pas le fait d'être. Parce qu'il faut d'abord être l'être pour pouvoir avoir des mérites. Vous comprenez? Par conséquent, si nous avons ce qu'on appelle pidyon nefesh, à payer le prix de notre être, il n'y a pas d'autre prix que notre être lui-même. Mais ce que Dieu demande, ce n'est pas qu'on lui rende notre être, ce qui n'aurait pas de sens si c'est lui qui nous l'a donné. Vous comprenez, et nous ne sommes pas chez le Dieu de Voltaire ou le Dieu de quiconque que ce soit, de ce genre. Et c'est le Dieu de la réalité. Il nous a donné l'être, qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous le reprend? Non, c'est tout à fait autre chose. À partir du moment où, par un acte de volonté, on serait prêt à le rendre, et il faut le faire, et si c'est sincère, c'est comme si on le rendait, c'est pourquoi c'est tragique, c'est dramatique. À ce moment-là, c'est acquis. Seulement, vous voyez, pendant qu'on est dans la péripétie, on la vit vraiment. Bien sûr. Ça se rattache à ça. Écoutez, comment vous expliquez ça? Ça veut dire qu'en réalité, toute cette vie de ce monde-ci, avec toutes ces terreurs, et toutes ces angoisses, et toutes ces doutes, c'est un cauchemar, et pas autre chose. Mais c'est un cauchemar qui est vécu, vraiment. Vous comprenez? Je sais pas si vous... Ça veut dire que... Enfin, il faudrait analyser ça plus longuement. Ça veut dire... on peut reprendre le pigeon que je vous ai cité, « Al-Tira Abdi Yaakov ». Dieu dit à Israël, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. Altira a dit à Jacob, Dieu dit à Jacob, n'aie pas peur. Et à qui il dit n'aie pas peur? Donc à quelqu'un qui est censé ne pas avoir peur. Ou à quelqu'un qui est censé avoir peur. C'est-à-dire Jacob n'a pas à avoir peur, mais c'est lui qui a peur. Et sa peur est vraie. Mais on sait d'autre part, et a posteriori ou même à l'avance, qu'au bout de cette peur, il n'y avait pas à avoir peur. Mais pendant qu'il est occupé à la peur, il a peur. Et il y a un Midrash, on s'arrêtera là quand même, il est tard. Il y a un Midrash qui dit ceci. Au jugement dernier, les tzadikim auront peur et leurs shaïm auront peur. Les tzadikim auront peur parce qu'ils se retourneront et verront qu'ils ont traversé un immense précipice. Ils auront peur de ce qu'ils ont eu le courage de faire. Et les shaïm auront peur parce qu'ils se retourneront et verront qu'il n'y avait qu'un fil à passer, ils ne l'ont pas passé. Vous comprenez? Et en réalité, il n'y a qu'un fil à passer. Tant qu'on ne l'a pas passé, c'est un précipice. Alors on a peur. Mais dès qu'on l'a passé, on voit que ce n'était qu'un fil. C'est-à-dire Jacob, occupé à lutter contre l'ange, il a peur beaucoup, nous dit le texte. Et puis une fois qu'il l'a vaincu, c'est devenu Israël. Et lorsqu'il se rappelle quand il était Jacob, il dit, à ce point j'ai eu peur. Mais c'est ça la péripétie même. Mais c'est ça la péripétie même de la vie. Vous comprenez le problème? Est-ce que c'est clair? J'ai sa descendance. Sauf quand chacun devient Israël, alors il a plus peur. C'est les autres qui ont peur d'eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la panique que représente Israël dans le monde aujourd'hui. Parce que le monde entier reconnaît que c'est cet être, même s'ils n'ont pas lu la Bible, il reconnaît que c'est cet être qui est capable de lutter contre les puissances célestes et contre les hommes et de pouvoir le faire. Et il peut.
Bon, Dieu, quand il a lutté contre son ange, contre son ennemi, il n'a pas de charge, il ne peut pas faire ce que lui-même. Donc il savait que de toute façon, Dieu, et de toute façon, sera plus fort que le Dieu amoindri, que le génie
Je regrette. Il s'agit, justement, il ne s'agit pas de la lutte de Dieu en haut contre le sard de Yaakov.
Il est protégé par le Dieu.
Il s'agit de la lutte de Jacob en bas contre le sage des ayants. Et Dieu attend que Jacob gagne contre lui, puisque le sage est sage. Bon. Et je veux dire que l'épreuve est sérieuse. Ne croyez pas que c'est un jeu littéraire qui se fait sur une scène. C'est la réalité de l'existence que nous vivons. L'épreuve est sérieuse. Quand nous nous colletons avec les divinités d'égoïne, nous nous colletons avec des puissances qui sont des mythes vivants. Je ne sais pas si vous comprenez. Et finalement, comme Abraham déjà, qui a réussi à démolir les idoles, c'est ce qu'Israël fait à travers l'histoire. Nous luttons contre des forces réelles. Bon, reprenons là. Le tableau de la
situation. Nous luttons contre des forces réelles, mais on a une protection.
Comment?
On peut avoir une protection.
Écoutez, il y a un Midrash qui dit, qui pose votre question. Je l'ai d'ailleurs dans ce texte. Et il y a écrit, et Jacob a eu peur beaucoup. Et le Midrash pose la question, et pourquoi il a eu peur? Un peu, il donne un argument voisin du vôtre. Et alors, le Midrash répond, Shema Iro Mahet. Shema Iro Mahet, ça veut dire de peur qu'il n'ait pas assez de mérite, de peur que ses fautes lui fassent perdre la partie. Et c'est ce que dit la Mishnah des Pirkeiavot. Al Tarin Atnecha Adyomotecha, Adyomotra. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Alors quand? Alors c'est pourquoi la Mishnah dit, pour faire tshuva un jour avant sa mort. Et comment on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire tshuva?
Ce sont des moyens qui sont donnés par Dieu directement.
Allez-y.
Le jeu des événements. Création de Dieu, des moyens que Dieu lui donne.
Ces moyens
sont limités par la
condition
où
Jacob a gagné.
Ces moyens sont
pas limités, illimités. Un sar, écoutez, un sar, c'est vraiment un sar chez le Mahala. Ça veut dire que c'est une grande terreur de savoir qu'il faut lutter contre des puissances plus grandes. Écoutez, je vais vous dire.
Les puissances sont relativement limitées au départ. Elles ne sont faites que pour une personne intéressée. Et est-ce qu'elles sont en fonction de cette personne ou est-ce qu'elles sont en fonction de ce qu'on vient de leur donner au départ?
Elles sont un infini en soi. Je vous donne un exemple. Actuellement, déjà depuis à peu près, je ne sais pas comment dire, une centaine d'années, nous essayons, pour lutter contre l'assimilation,
de lutter avec ce que nous appelons les valeurs permanentes du judaïsme, la kiltirvine, etc., contre les grandes cultures d'égoïsme. Et tout le monde sait que c'est froc. C'est un espèce de petit folklore vraiment médiocre, qui n'a aucune valeur culturelle. Et puis on dépense un argent fou pour éditer des tas de brochures et des tas de bouquins. Vous savez, département de la Barre de la Sournoute, ces gens-là sont naïfs, vous n'avez aucune idée. Ils nous sortent des petites brochures, des petites, enfin, des petites choses médiocres pour aider les communautés de la Gola à lutter contre quoi ? Contre ces géants que sont la culture grecque, la culture romaine. Vous comprenez ce que je dis ? Sentimentalement, on fait semblant de ne pas comprendre. On reçoit des petits brochures, des petits contrats dilués à l'eau sucrée, des petites roses comme ça, des petites danses, des petites choses. Ils appellent ça la culture juive. C'est un petit folklore de zéro, rien. Pour lutter contre quoi ? Contre les universités, contre les choses sérieuses. Et vous avez lu quelquefois le pont, la revue de, en français. Il faut vraiment aimer son peuple pour laisser passer les choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? On prend ça pour de la politique, on appelle ça Asbara, Tarmoula. J'aime beaucoup ces gens-là d'ailleurs. Ils sont naïfs, ils sont tchougaïm, comment on dit, Yehudi Meshuga. Et ils s'imaginent que c'est de la culture, ça n'a aucune valeur. Rien. Qu'une par rapport à ce que c'est vraiment la culture d'égoïsme. Vous comprenez ? Ce serait une lutte perdue à l'avance. La culture occidentale, c'est un infini, à côté de ces petites choses qu'on nous appelle la culture juive. Il nous cite de... Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Et il... Il nous met un rabbi Akiva de 4 ans et demi pour lutter avec un Descartes de 45 ans. Il y a mal d'ordre, ça ne fait pas le poids. En réalité, pourquoi ? Parce que c'est un rabbi Akiva qu'ils ont appris eux quand ils avaient eux 4 ans et demi. Mais tandis que Descartes, ils l'ont compris quand ils avaient eux 45 ans. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a une... Alors, en réalité, c'est petite force-là qui balance. C'est la manière d'être homme des Juifs et d'Israël, qu'ils le veuillent pas, qu'ils le sachent pas, c'est Jacob luttant contre l'ange. Mais c'était pour répondre à ta question. C'est que vraiment nous luttons contre un infini biyachas, relativement à des maclis. Jacob dit, j'ai un bâton dans la main. Et c'est tout à fait ça. Moi je reste, comment dire, chaque fois admiratif de cette naïveté. Devant toute cette littérature sioniste du MAPA, et même du MAPA, mais c'est un peu plus sérieux, mais enfin pas tellement. Par contre, la culture juive, qu'est-ce que c'est pour eux la culture juive ? Des petites choses qu'ils ont cherchées dans le rancard des greniers du XVIIIe siècle, des bric-à-brac des encyclopédies. Des petits machins comme ça, zéro. J'appelle ça la culture juive. Oui, vous comprenez ce que je veux dire. Alors qu'en face, il y a des géants. Vous voyez, quand on parle du sœur de Essas, Anaki, à vaincre son péril en triomphe sans gloire, c'était quelqu'un. C'est ça l'histoire. Bon, et on va quand même s'arrêter là, et on se retrouvera le...